France Bleu Alsace. Jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour.
Olivier Folmy est notre invité ce soir. Il est photographe de renommée internationale. Il s'est distingué par de nombreux clichés en Himalaya notamment, et il s'est fait connaître par de nombreux projets, de nombreux livres. Il est actuellement en Alsace pour vous présenter l'histoire de sa vie, l'Himalaya. Olivier Folmy, je vous ai dit qu'on va aller remonter le temps. Votre première découverte des sommets les plus hauts, vous êtes passionné d'alpiniste, c'était vraiment à cet âge-là, à 17 ans, ou bien vous aviez déjà fait quelques expéditions?
Ah non, en dehors de l'Europe, je n'avais pas fait de sommet. Je suis parti à 17 ans faire un sommet en Afghanistan, et c'est ce qui a changé ma vie. Alors, ce n'est pas le sommet qui a changé ma vie, c'est les rencontres que j'ai faites.
Ah ouais.
C'était avant la guerre d'Afghanistan, évidemment. Je me souviens, j'avais décidé, avant de faire ce sommet avec l'expédition, avec le groupe, j'avais décidé de traverser l'Afghanistan tout seul par la piste du centre. Et j'avais décidé d'acheter un turban pour voyager. Mmh. Et je suis allé à Kaboul dans le vieux bazar, hein, j'avais repéré une échoppe, et il y avait le marchand qui était assis sur son tapis, qui buvait du thé vert. J'ai choisi un turban, et je suis venu vers lui, je dis voilà, ben je l'achète, combien il coûte? Et il me regarde et il me dit, mais toi je te le vends pas. Et moi j'avais 17 ans, je n'étais jamais sorti d'Europe, et je comprenais pas. Il dit pourquoi? Il me dit parce que tu me l'as pas marchandé. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais dans un pays qui avait d'autres codes. Et que ce marchand, c'était pas forcément faire des affaires qui l'intéressaient, c'était communiquer.
C'était l'échange.
Donc je me suis assis, on a parlé de nos vies, et finalement j'ai pu le marchander, acheter, repartir avec mon turban. Mais ce marchand-là a posé toutes les bases de mon travail photographique pour la suite. C'est-à-dire que moi, je me servais de la photographie comme lui de son turban, c'était pour communiquer.
Alors ça a été au-delà de vos espérances, parce que vous avez couru l'Himalaya. Combien de fois vous êtes allé en Himalaya sur la chaîne?
Ah, j'ai jamais compté. J'ai passé ma vie à faire des allers-retours.
Là, cette année, vous y retournez quand, par exemple?
Ah ben, je suis parti 3 fois au Tibet cette année.
Oui.
Ma vie se passe entre l'Occident et le
reste du monde. Entre la Haute-Savoie où vous résidez, et puis là-bas. Bon, si vous avez cet amour pour l'alpinisme et la montagne, c'est précisément parce que vous venez de Haute-Savoie, ou vous auriez pu être d'ailleurs et avoir le même virus?
Oh, je sais pas. Non, je pense que si j'étais né en Bretagne, j'aimerais la mer. Hein. Je suis un homme passionné, donc je me serais passionné pour quelque chose.
Oui.
Mais j'aime la montagne, bien sûr, parce que je suis né en montagne, hein, et que le monde des montagnes me parle, mais ce sont surtout les hommes des montagnes qui me parlent.
Ah, vous
êtes... Je suis pas un photographe alpiniste, je suis un photographe humaniste.
Hein. Oui, en fait, ce qui vous intéresse, c'est les rencontres avec la population. Alors, vous avez tissé des liens très forts avec des gens que vous revoyez régulièrement, j'imagine, là-haut, à tel point que vous avez endossé la responsabilité de parents pour des enfants aussi.
Oui. À l'époque, on s'est engagé, d'ailleurs c'est le première partie du film que je présente, avec Connaissance du Monde, c'est l'histoire de deux enfants de l'Himalaya, du Zanskar, donc une vallée qui est complètement isolée dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, et que les parents nous ont confié, avec Danielle, qui était mon épouse à l'époque, les parents nous ont confié leurs enfants pour les instruire dans le monde moderne. Donc ça, c'est l'histoire qu'on racontera.
Mais si vous voulez connaître la suite de le début de l'aventure, démarre par ça. Puis ensuite, ça va beaucoup plus loin. C'est ce que vous disiez, les chemins, à la croisée des chemins, on fait des rencontres incroyables. Vous allez nous raconter ça en images, ce soir à Egbolsheim, dans la salle des fêtes à 20h, la semaine prochaine à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg. Alors il y a des séances le matin, on détaillera tout ça, et puis ce soir en direct dans Ça vaut le détour, la rencontre avec le Dalai Lama, ça a été marquant, on va en parler dans un instant. Olivier Folmy, on fait la route ensemble, loin de ces montagnes, la plaine d'Alsace avec ses encombrements. C'est l'autoroute A35 qui est la plus encombrée aux portes de Strasbourg, dans le sens sud-nord, entre la Méno et pratiquement Bischheim. C'est un petit peu délicat, mais c'est encore plus compliqué dans l'autre sens. Sur l'A4, à partir de Souffelweyersheim, il y a un vrai coup de patin, jusqu'à pratiquement Geispolsheim. On a du monde également sur la 36, pardon, à Mulhouse, dans le sens Mulhouse-Belfort. Dans les deux sens, à la hauteur de Lutterbach, on a les premiers coups de patin et jusqu'à la sortie Mulhouse-Centre. Et puis si vous allez de Mulhouse vers Belfort, il y a aussi un petit ralentissement sur la 36, pratiquement jusqu'à l'embranchement pour repartir sur la Nationale 66. Vous avez d'autres infos trafic, nous sommes preneurs au 03 88 25 02 02.
L'infotrafic avec Kovacic, fabricant et installateur de volets, fenêtres, portes de garage et portes d'entrée, à découvrir sur kovacic.fr.
Comme elles viennent, sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon. Au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir. Le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents pleurent, ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles.
Le jour de nos fiançailles de Palmas. Est-ce que vous aimez l'aventure, la vraie, la grande, l'aventure humaine, donc? Eh bien, si vous voulez y ajouter des paysages époustouflants, vous allez adorer le film que propose actuellement en Alsace Olivier Folmy. Le photographe est là pour présenter Himalaya, l'histoire de ma vie, ce soir à la salle des fêtes d'Egbolsheim. C'est à partir de 20h et un peu partout, nous en parlerons dans le cadre des films avec connaissance du monde.
France Bleu Alsace, jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour.
Alors, Olivier Folmy, vous m'avez confié que vous partez à peu près 9 mois par an, et pendant un mois, vous sillonnez la France pour montrer ces images. Qu'est-ce qui vous pousse à courir comme ça, le monde et surtout l'Himalaya, et de venir pour le présenter
Ce qui me pousse, c'est la rencontre avec les hommes. J'aime rencontrer l'humain, j'aime l'humain, et j'aime l'humain de chaque culture. Je m'intéresse aux cultures de chaque pays, oui, de chaque continent. Je trouve qu'il y a des sensibilités différentes, des moyens de vous concevoir le monde différente. Et c'est cette attirance pour ces différentes vérités qui me fait voyager.
Bon, là-haut, les règles ne sont pas les mêmes, vous nous l'avez expliqué. Les rencontres sont forcément plus fortes. Les paysages sont parfois hostiles. Et l'avenir des enfants est souvent aléatoire. Quand pour la première fois, une mère vous demande de prendre en charge l'éducation ou bien l'avenir de leurs enfants, ça se passe il y a combien de temps et quel est votre état d'esprit ?
C'est une famille que j'ai rencontrée dans l'Himalaya il y a près de 40 ans et j'ai proposé d'instruire les enfants, enfin le garçon. Et on l'a mis à l'école. L'école était à 150 km de la maison, c'était l'école la plus proche. Il est resté 3 ans en pensionnat et au bout de 3 ans, eh bien, avec Danielle, mon épouse, on l'avait ramené chez lui. Mmh. en hiver, c'était les vacances, oui. par un fleuve. Il fallait marcher 10 jours par moins 30 degrés pour amener le petit chez lui.
Oh.
Et la mère, les parents étaient fascinés de retrouver cet enfant qui avait 3 ans d'école. Et donc, en repartant sur les glaces du fleuve pour aller à l'école, eh bien, la mère nous a demandé d'emmener la fille aussi, qui avait 8 ans, la petite. Et au moment de partir, elle nous dit « Je vous confie mes enfants, ce sont les vôtres aussi ». Et du coup, d'une minute à l'autre, on est devenu parent de ces deux enfants, responsable pour les instruire, pour les faire grandir. Et c'est une histoire, eh bien, qui dure encore, parce que...
Vous les voyez régulièrement encore?
Ah, bien sûr, c'est mes enfants. Ils ont 4 parents. On était au mariage, on est monté voir les parents pour discuter du mariage, si on était d'accord ou pas pour ce mariage.
Ah, c'est vrai.
Oui, là où ça se décide comme
dire,
ça. Ah oui, bien sûr. Oui.
Mais nous, ici, on imagine que de se séparer, presque de donner son enfant, c'est un déchirement. Vous m'expliquez que non, dans la tradition tibétaine, c'est mieux. Si on sait que sa vie sera mieux avec telle ou telle personne, on s'en détache.
On s'en détache, c'est-à-dire, oui, c'est pas un détachement, parce que la souffrance est là,
oui.
Mais c'est de l'amour.
Mais elles savent que ça sert à quelque chose.
On le fait par amour, en fait, on considère que s'accaparer un enfant n'est pas bon. On a un enfant pour l'aider à s'envoler le plus vite possible, le plus tôt possible.
Ouais.
D'ailleurs, on prend très peu un enfant dans les bras dès qu'il peut marcher.
Ah oui, c'est vrai.
Dans le monde himalayen. On veut tout d'un...
Mais c'est étrange.
Lui donner une vie plus indépendante, le plus rapidement possible. Donc si, tout d'un coup, une occasion se présente pour que l'enfant s'épanouissent plus que ce qu'on pourrait faire soi, eh bien, on le fait partir. Et c'était ce cas-là.
En sachant qu'il va finir par revenir, c'est-à-dire que...
On se pose pas la question.
On dit toujours, on se marie toujours dans sa rue, quoi, et finalement. Est-ce que c'est pareil? C'est-à-dire que l'ancrage viscéral à cette chaîne himalayenne hostile est tel que les enfants, même s'ils ont réussi ailleurs, ils reviennent au village?
Pas forcément, parce que la vie au village, quand vous avez fait des études, elle est pas attrayante, hein, retourner dans les champs, et c'était pas forcément la vocation des enfants de revenir à tout prix. Par contre, ils sont installés dans une vallée voisine, à 150 km de là, ou qui est beaucoup plus reliée à la modernité, et qui a donc du sens par rapport à leurs études.
C'est-à-dire qu'il y a du wifi, non, quand même pas.
Si, bien sûr.
Ah, c'est dingue.
Sûr,
bon, on va parler de ce rapport à la vie trépidante des sociétés. Alors quand vous redescendez de là-haut, de la montagne, on va essayer de comprendre avec vous quelle impression ça vous fait de revenir dans la civilisation. On va aussi essayer de comprendre comment vous essayez de garder un œil frais chaque fois que vous retournez là-bas pour ne pas remontrer la même chose et pas simplement faire ces voyages par pure courtoisie pour rencontrer les gens que vous avez déjà croisés là-bas. Il s'appelle Olivier Folmy, notre invité. Il est, je dis sur scène, mais c'est pas exactement ça, il se met pas en scène. Il vous présente les gens qu'il a rencontrés, et je crois que vous avez découpé votre projection, votre film en 2 temps forts de votre vie en Himalaya.
Oui, enfin, j'ai eu 20 ans de vie himalayenne et j'ai 20 ans autour du monde. Et ça, c'est la deuxième partie de ce que je présente. C'est mon film Fleuve de vie.
Merci d'être notre invité ce soir en direct dans Ça vaut le détour sur France 2.
Le TER, prenez-le comme le bus et le tram. Avec un abonnement CTS, voyagez aussi en TER sur toute l'Eurométropole de Strasbourg. C'est simple, avec un abonnement bus ou tram et une contre-marque, prenez aussi le TER dans les 13 gares de l'Eurométropole de Strasbourg, sans surcoût tarifaire. En partenariat avec la région Grand Est et la SNCF. Plus d'infos sur cts-strasbourg.eu. France Bleu.
Petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more. The old dancing music sound all day long in my gown. When I will be down, quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum, plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore
dans cette petite mort. When petite sœur, we'll just have to remember. I'll be down no more, the old dancing music sound all day long in my gown. When I will be down.
Les hommes, les femmes, les paysages, tout vous fait comprendre qu'il faut renoncer au code de vie de la civilisation. Quand vous arrivez sur la chaîne himalayenne, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est ce que vous explique magnifiquement Olivier Folmy dans son film « Himalaya, l'histoire de ma vie » projeté en ce moment en Alsace. Le photographe Olivier Folmy est notre invité dans un instant. Sur la route, à 17h31, allons faire un tour au CIRAC, le PCRO de Strasbourg, avec Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Alors, du rouge et encore du rouge sur le réseau autoroutier ce soir.
Oui, tout à fait. Donc principalement sur le réseau autoroutier, donc en venant de la 4 au niveau de Molsheim et en direction... Et on dirait donc que lorsque vous êtes sur la 35
oui.
en provenance de Molsheim et d'Aubernais, vous avez des ralentissements au niveau de l'approche de la plaine des Bouchers et qui s'arrête une fois que vous avez passé le virage de Cronenbourg. Oui. Si vous êtes sur la 4 en provenance d'Agno, vous avez des ralentissements qui commencent au niveau de Vendenheim et qui se prolongent jusqu'à Insheim. Après, au niveau du réseau urbain, beaucoup de monde pour sortir sur le réseau urbain. Donc les sorties d'autoroute sont un peu saturées. Et après, au niveau du réseau urbain, du monde sur la route du Rhin dans les deux sens de circulation. Et au niveau des parkings, tout est disponible.
On a bien noté tout ça. On vient vous voir dans une demi-heure. Et s'il y a quoi que ce soit d'urgent, vous prenez l'antenne quand il le faut. Vincent Pilcirac, à tout à l'heure. Sur la 36, dans le sens Belfort-Mulhouse, quand vous arrivez à la hauteur de l'échangeur pour aller vers Lutterbach, on a un gros ralentissement. Ça démarre même un petit peu plus haut. Ça démarre à l'échangeur. Pour aller vers les coteaux, on a ce long ruban de circulation en accordéon jusqu'à pratiquement l'échangeur de la voie rapide nord-sud. Et dans l'autre sens, c'est d'ailleurs là aussi que commence le ralentissement qui, lui, se termine à la hauteur de l'échangeur pour remonter sur la Nationale 66. Vous avez des infos trafic à nous communiquer. Nous sommes preneurs au 03 88 25 02 02. En bus et en tram à Strasbourg, ça marche comment? Eh bien, c'est Claudia qui va nous le dire à la Compagnie des Transports Strasbourgeois. Bonsoir Claudia.
Bonsoir Thierry.
Des ralentissements, des retards?
Oui, effectivement, ce soir on a du retard, on a jusqu'à 15 minutes à prévoir sur les lignes de bus 6, 10, 13, 57 et 70. Pour le tram, tout va bien, ça circule normalement. Et sinon, demain samedi, il y a la reconduction du plan particule. Donc c'est les bus et tram illimités toute la journée pour 1,70€. Et vous avez toutes les infos sur le compte Twitter CTS Info Trafic ou sur le site internet www.cts-strasbourg.eu.
On a tout noté. Merci Claudia, bonne soirée.
Bonne soirée.
L'infotrafic avec Kovacic, fabricant et installateur de volets, fenêtres, portes de garage et portes d'entrée, à découvrir sur kovacic.fr.
France Bleu Alsace. Jusqu'à 19h, ça vaut le détour.
Ça vaut le détour. Quand il était petit, dans sa communauté savoyarde de Saint-Julien en Genevois, Olivier Folmy regardait le Mont Salève en disant non, pas assez haut pour moi. Il faut que j'aille ailleurs. Et il a commencé à faire de l'alpinisme. Il est devenu accro à la montagne. Alors, plus ensuite aux gens qu'on croise dans les montagnes, parce que oui, il y a des sommets où des gens vivent. C'est le cas de la chaîne himalayenne. L'Himalaya, c'est une partie de sa vie. D'ailleurs, il raconte cette histoire très bien dans l'Himalaya, l'histoire de ma vie. Un film à voir ce soir avec Bolsheim. Vous pourrez découvrir ce même film samedi dimanche à l'UGC Ciné-Cité. C'était à 15h je crois, c'est ça?
10h45,
oui, à la Flèche. Oui, bah oui, vous irez à la messe et puis ensuite directement à la montagne. Et puis vous serez également à Benfeld la semaine prochaine. Mercredi vous serez
Je suis à Strasbourg lundi mardi encore.
Ah oui, lundi mardi, vous êtes à Strasbourg à l'UGC à 17h30 et à 20h, hein, c'est
oui,
bien ça.
Oui.
Et puis puis le mercredi, vous serez au cinéma Rex à Benfeld, et puis on donnera les autres rendez-vous, puisque vous êtes en Alsace jusqu'au 10 février pour présenter l'histoire de votre
Oui, je fais toute la tournée de l'Alsace.
Bon, et c'est vrai que l'appel de la montagne était très fort, la Haute-Savoie y est peut-être pour quelque chose, mais c'est surtout quand vous êtes arrivé là-haut, une fois que les paysages vous ont époustouflé, les rencontres avec les gens. Alors, les gens sont des familles entières qui vivent dans des conditions de dénuement extrême, souvent. Vous nous avez expliqué que l'histoire de votre vie a été marquée par cette famille qui vous confie d'abord leur fils, puis ensuite leur fille, avec votre compagne de l'époque, Daniel. Vous les élevez, en tout cas, vous suivez leur instruction. Et puis un jour, vous rencontrez la sœur du Dalai Lama, qui vous demande la même chose.
C'est-à-dire qu'on était très proches, on reste très proches du monde tibétain, évidemment, et on a vécu plus d'une année à Dharamsala, donc dans la communauté du Dalai Lama, des réfugiés tibétains.
Ouais.
Et c'est là où on avait souhaité aussi adopter des enfants, ce qu'on pouvait pas en avoir nous-mêmes.
Ouais.
Et puis les enfants du fleuve gelé, on voulait pas les déculturer, on voulait les garder en Inde. C'était un accord tacite entre les parents et nous. Et donc la sœur du Dalai Lama nous a confié nos enfants, avec qui on est revenu plus tard en Europe.
En Europe. Vous avez été photographe du Dalai Lama, paraît-il.
Oui, bien sûr, j'étais proche de tout ce milieu-là, et évidemment, l'occasion s'est présentée, notamment quand il est venu en France faire une tournée des enseignements, et puis rencontrer aussi des hommes politiques en France, j'étais son photographe. Oui.
Bon, quand on rencontre ce monde-là, on revient forcément avec une image différente de la civilisation. Alors, chaque fois que vous partez, c'est-à-dire 8 à 9 mois par an, quand vous revenez, les choses ont changé, ou alors vous continuez à vous informer de ce qui se passe ici en Europe, ici en France, quand vous êtes là-bas?
Je m'informe pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change, dans le fond. Quand vous revenez au bout de 9 mois, vous entendez toujours les mêmes nouvelles.
Oui, c'est ça, mais alors c'est drôle, là, on est en pleine campagne présidentielle, vous découvrez les choses, vous avez l'impression de les revivre comme il y a 5 ans.
Globalement, oui, tout à fait.
Ça,
globalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et si vraiment il y a quelque chose de grave qui se passe, vous le savez où vous soyez dans le monde.
Oui.
Mais c'est rare qu'il y ait des choses graves qui se passent, c'est rare. Hein.
Bon, vous disiez que les enfants que vous aviez adoptés en tout premier, maintenant, vivent à 150 km de là où vous les aviez rencontrés la première fois, dans un univers qui est civilisé, c'est-à-dire avec des téléphones portables, la Wi-Fi.
Oui, la modernité dans ces vallées aussi, oui.
Donc ça simplifie les moyens de rester en contact avec eux, j'en doute.
Tout à fait.
Et vous gardez ces habitudes de citadin quand vous êtes là-haut? Enfin, vous êtes accro?
Non, quand je suis là-bas, je lâche prise.
Ah,
l'intérêt
oui.
du voyage, c'est de lâcher prise, c'est pas de rester accroché à ses repères.
Ouais.
C'est s'ouvrir à autre chose. Donc là-bas, en plus, si je veux faire du travail photographique conséquent, il faut que je développe une part sensible, donc faut que j'oublie tous ces outils.
Alors justement, comment est-ce que vous gardez cet œil d'enfant, mais enfin cet œil frais, pour ne pas rapporter chaque fois des images déjà vues, mais faites différemment, simplement?
Par le simple fait de repartir, si je repars, c'est que je suis curieux, je cultive un regard d'enfant émerveillé, et sinon, si je suis blasé, je repars pas. Je reste cantonné dans mes repères.
Vous faites encore de la très haute montagne?
Non, j'ai fini, je suis beaucoup trop vieux.
c'est sage. La tentation, c'est de se dire, j'y étais 800 fois, rien ne peut plus m'arriver.
Non, là, loin de moi, cette idée-là, parce que, vous savez, la dernière fois que j'ai fait un 8000, j'ai failli ne pas redescendre à cause de la tempête, et je me suis dit, plus jamais tu remontes là-haut, autrement un jour tu redescends pas. Et d'ailleurs, tous mes amis de mon âge qui ont persévéré dans l'Himalaya, il n'y en a plus.
Ah, il n'y en a plus du tout.
Non, il n'y en a plus.
Oui, ça calme.
Bon, c'est un monde qui est trop hostile, et il faut savoir s'arrêter à temps et savoir sa chance aussi. Quoi.
Bon, alors dans ce film Himalaya, l'histoire de ma vie, ce que vous présentez, c'est finalement toute l'énergie positive que vous avez captée chaque fois que vous êtes allé dans cette chaîne himalayenne, c'est ça, c'était ça ce que vous vouliez montrer?
Dans la deuxième partie de mon film, oui, Histoire de ma vie, le fleuve de vie, oui, je fais un peu la synthèse de ce que j'ai retenu de ce monde, de tout ce j'ai parcouru après l'Himalaya, j'ai parcouru pendant 20 ans le monde, et je suis émerveillé par ce monde, par l'humanité que j'ai rencontrée, et donc c'est un message que j'ai envie de partager dans cette deuxième partie, de montrer la beauté de ce monde et la beauté de l'humanité, et voir que tous ces hommes, nous sommes différents, mais en même temps tous complémentaires.
Himalaya, c'est un film, c'est un assemblage aussi de
c'est
photos,
un mélange de photos et de vidéos que j'ai prises.
Ouais.
C'est une réflexion, c'est un film inspirateur, il se veut inspirateur, ce n'est pas un documentaire.
Oui. C'est un voyage, c'est un cheminement. Quoi.
C'est un cheminement que j'ai envie de partager, et c'est une réflexion personnelle sur le monde, c'est un regard positif que j'ai envie de faire partager sur le monde, parce que je trouve que le monde est beau, que l'humanité est belle, elle est pleine d'espoir, et qu'il ne faut pas s'arrêter aux nouvelles radiophoniques ou télévisées, parce que le monde n'est pas que violence et injustice, loin de là, il est beauté.
Est-ce que vous pensez que si ce marchand vous avait vendu le turban sans vous remettre à votre place, votre vie aurait été différente?
Probablement. On a tous une expérience de vie qui nous induit un chemin ou un autre. Il aurait été peut-être différent, forcément.
Pour les personnes qui n'étaient pas là, comme on dit dans Télépoche, si vous arrêtez le début, Olivier Folby nous a raconté qu'à 17 ans, il part, il veut faire, c'est quoi le Mir Sarmir?
Le Mir Sarmir, c'est un sommet en Afghanistan.
Et il veut un turban parce qu'il trouve que ça fait un petit peu couleur locale. Il veut acheter un turban, il s'arrête dans une échoppe et le gars lui dit non, toi je te vends pas le turban parce que t'as pas respecté les règles. Ici, on doit d'abord commencer à marchander.
C'est vrai, on doit s'asseoir, on doit discuter.
Prendre le temps de rencontrer la personne.
Tout à fait. S'il n'y a pas relation, vendre des grossiers, quoi. Bon. Simplement un échange d'argent, c'est grossier.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, vous pensez que ce même marchand, ou bien son fils peut-être, ne chercherait pas à communiquer, prendrait l'argent du touriste ou bien de l'aventurier en herbe et fermerait sa bouche?
Peut-être, il a évolué dans la modernité, dans cet esprit lucratif, mais je ne crois pas, parce que ce sont des valeurs de culture qui sont fortes. Et je vois en Inde, ça existe toujours, cette notion de.
C'est un prétexte pour discuter, quoi, finalement, le commerce.
Mais dans la grande partie du monde, il n'y a que dans le monde, je dirais, industriel, d'argent, qui est de lucre, où on ne conçoit que la relation à l'autre à travers l'argent. Mais vous allez en Afrique, en Amérique latine, en Asie, beaucoup, vous avez les gens qui prennent le temps de vivre.
Bon, alors, si vous voulez faire ce bout de voyage avec Olivier Folmy, on va donner les rendez-vous précis. Himalaya, l'histoire de ma vie. Peut-être que vous serez aussi pris par ses envies d'expédition en Asie. Il pourra même peut-être vous dire comment faire et comment bien s'y prendre. Je rappelle donc ce soir à la salle des fêtes d'Egbolsheim. Vous serez dimanche à 10h45 à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg. Vous serez également lundi à 15h et 17h30. Mardi à 17h30 et 20h.
À Strasbourg, oui.
À Strasbourg,
oui.
À 20h45 à Benfeld, mercredi au Cinéma Rex. À Colmar, jeudi à 14h30 au CGR, au Méga CGR, et à l'Espace Culturel Saint-Grégoire à 20h30 à Münster. Vous revenez à Strasbourg à l'UGC vendredi à 15h et 17h30. Et puis dimanche, à Colmar au Colisée, cette fois lundi à Bulle, à la MJC de Bulle, dans le Florival. À Ilkirch, à l'Iliade, à Belfort, au centre de la Pépinière. Ilzac, l'Espace 110, jeudi et vendredi. Vous serez dans le territoire de Belfort, à Dell également. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet, Olivier Folmy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le prochain départ,
merci à
c'est
vous,
quand et où? C'est quand et on, le prochain départ?
Le prochain départ, c'est dans 15 jours, 3 semaines, en Inde, retrouver mes enfants.
Ah oui, vos enfants. Merci beaucoup.
Lundi, merci Thierry, merci France Bleu, au revoir.
Vous avez un camping-car, vous faites tout en camping-car quand vous
Oui, je reste nomade, j'ai ma tente.
Lundi, nous serons avec une autre personne qui a eu envie de voyager. Elle s'appelle Marjolaine Piémont. Elle est strasbourgeoise, mais très tôt, elle a envie de faire artiste. Comme on dit, elle est montée à Paris. Elle a réussi, elle a fait du cinéma, elle a fait de la musique, de la chanson, des spectacles avec Zazie. Elle a fait la comédie musicale, l'opéra rock Mozart. Et là, elle arrive avec un spectacle tout neuf. Et cette amoureuse de la chanson française arrive avec un album. C'est presque un album, parce qu'il n'a que 5 titres. Ça s'appelle « Presque un animal ». C'est drôle. Et elle a un parcours extravagant qu'elle nous racontera lundi dès 17h en direct sur France Bleu Alsace. My soul.
But I gotta stay, stay, stay.
Coup de cœur de France Bleu Alsace et que vous fredonnez encore comme si vous l'aviez composé vous-même. 17h46, c'est le voyage.
France Bleu Alsace, jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour.
C'est le voyage qui marque cette demi-heure sur France Bleu Alsace et Jean-Philippe Pierre arrive. Je dirais pas qu'il en trimballe, mais enfin avec une valise, l'album photo souvenir et dans son abécédaire aujourd'hui, c'est un salon qui se tient ce week-end à Strasbourg qui a inspiré le mot du jour.
Tourisme, nouvelle forme de colonisation à cette différence près que désormais c'est le colonisateur qui donne ses richesses aux colonisés. Mais le vieil atavisme occidental fait que le tourisme va se faire un point d'honneur à marchander dans les pays où cette pratique est courante, en expliquant la main sur le cœur qu'il ne veut pas vexer l'autochtone et avouant sans rougir qu'il a réussi à obtenir cette jarre sculptée qui affichait pourtant déjà un prix dérisoire pour une somme que même les art discounters rendraient honteux. Le tourisme commence au salon. Je veux dire le salon tel Tourissimo qui se tient ce week-end à Strasbourg. Des endroits aussi chauds et bruyants que le plus chaud et bruyant souk qui soit. Là, même si on vous propose une excursion en forêt noire, on vous promet le Pérou. Si le tourisme commence au salon, il finit bien souvent aux toilettes. Oui, si le tourisme a créé le touriste, lui, a engendré la fameuse tourista. Elle est courante, si j'ose dire, si on ne fait pas comme le touriste de base qui ne quittera pas la climatisation et la piscine de l'hôtel et savourera le même steak frites qu'à 20 000 km de là, c'est-à-dire chez lui, à la maison, ou s'aventurera exceptionnellement dans une célèbre enseigne de fast-food qui le rassurera parce que c'est le même goût que chez lui, à la maison. Le monde moderne est ainsi fait que désormais on pratique le tourisme comme on change de chemise. Oui, il suffit en effet de faire quelques mètres pour entrer dans une agence de voyage à bas coût et d'en ressortir à des milliers de kilomètres plus loin, et cela parfois deux ou trois fois par an, parce que tu comprends, c'est vraiment donné, alors autant en profiter. Et de profiter des 10 heures de vol avant de s'amuser pour méditer sur cette plaie qui frappe le monde, le dérèglement climatique.
Ah, c'est joli de gâcher le plaisir des autres, hein, Jean-Philippe. Il y a ce rendez-vous du tourisme et du voyage ce week-end, effectivement, à Strasbourg, au Wacken, le salon Tourissimo. Je vous propose de répondre à cette question, mais pour gagner des invitations pour un autre salon qui se tient le week-end prochain à Mulhouse, le salon Festivitas. Concept novateur, Festivitas rassemble en un seul et même lieu la gastronomie, les vins et les voyages. Pour gagner vos 4 entrées pour Festivitas à Mulhouse la semaine prochaine, dites-moi quelle est la particularité du salon Tourissimo ce week-end à Strasbourg. Il y a tout un secteur qui est consacré au séjour dans les zoos ou dans les parcs animaliers, au séjour dans des hébergements insolites ou des séjours avec sport extrême. Vous avez la réponse, 03 88 25 15 15.